France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Suspense à l'Assemblée avant le vote sur le budget de la Sécurité sociale. Le résultat tout à l'heure dépendra de l'attitude des écologistes et de la droite, en l'occurrence LR et Horizon. Sébastien Lecornu a fait plusieurs concessions à la gauche pour obtenir un vote positif. Nous serons au Palais Bourbon dans un instant. La désindustrialisation de la France s'accélère, alerte la CGT, qui a recensé 107 000 emplois menacés ou supprimés depuis 2 ans. La CGT qui veut donner davantage de moyens aux organisations syndicales pour sauver des usines. Un enfant de 8 ans tondu par ses éducateurs dans un foyer parisien en février. La ville de Paris dénonce des faits gravissimes. La mère va porter plainte. Dans l'actualité à l'étranger, les combats ont repris entre la Thaïlande et le Cambodge. Les États-Unis appellent au respect du cessez-le-feu obtenu par Donald Trump en octobre. Un échec diplomatique pour le président américain, nous expliquera Dominique André. Y aura-t-il un nouveau budget de la Sécu ce soir? L'Assemblée doit se prononcer sur le PLFSS 2026, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Et le vote s'annonce extrêmement serré, qu'il soit positif ou négatif. Le gouvernement Lecornu peut compter sur le soutien des socialistes qui ont engrangé plusieurs concessions, comme la suspension de la réforme des retraites. Concession également aux écologistes sur la hausse des dépenses d'assurance maladie. Mais le groupe écologiste n'a pas dévoilé ses intentions. À droite, LR et Horizon penchent plutôt en faveur de l'abstention. On retrouve à l'Assemblée Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir.
Adrien, où en est-on dans les débats avant ce vote crucial pour le gouvernement ?
Alors les députés n'ont eu qu'un mot à la bouche cet après-midi, un acronyme ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, puisqu'un amendement de dernière minute a été déposé par le gouvernement pour acter une hausse de ses dépenses de santé passant de 2 à 3%, alors que le texte initial du PLFSS prévoyait un ONDAM plus resserré en raison du contexte budgétaire. Un geste à destination des écologistes qui sont restés méfiants cet après-midi, craignant que le gouvernement ne prévoie par la suite de faire des coupes par décret, mais la ministre des comptes publics, Amélie de Montchalin a tenu à les rassurer.
Il n'y a pas d'économie cachée, nous ne ferons pas des mises en réserve excessives, nous n'utiliserons pas le rabot à l'hôpital et le Premier ministre l'a annoncé, nous souhaitons mettre en place un comité de suivi parlementaire pour que l'ensemble des décisions de gestion concernant l'ONDAM, tant pour la ville que par l'hôpital, et donc notamment ce qui a beaucoup inquiété certains de vous parlementaires, la prise de décret, que pour l'ensemble de ces décisions, au vu des conditions dans lesquelles ce budget est en train de s'établir, eh bien l'ensemble des parlementaires soit également associé à son exécution.
Argument qui a assez convaincu pour que l'amendement du gouvernement soit adopté et peut-être pour que le groupe écologiste fasse à leur tour un geste, ne pas voter contre le PLFSS mais s'abstenir. S'ils ne s'abstiennent pas, le texte n'a quasiment aucune chance de passer. Alors tout le monde ici, journaliste comme député, sort sa calculatrice car le sort du PLFSS est encore loin d'être tranché. Si l'on fait un décompte approximatif, LFI, RN et UDR devraient faire le plein de voix contre. Le groupe communiste s'est prononcé en majorité contre. Modem et Renaissance pour. Pour également, vous l'avez dit, chez les socialistes. Et l'IOT à quelques voix près. Et puis les Républicains et Horizon devraient en majorité s'abstenir. Et on attend donc la position officielle des écologistes qui pourraient tout faire basculer. Et quoi qu'il arrive, tout est dans le détail. À quelques voix près, en majorité, ce sont des incertitudes qui rendent extrêmement difficiles les pronostics. Sébastien Lecornu et plusieurs de ses soutiens l'assurent, cela va se jouer à quelques voix.
Adrien Toffolet en direct du Palais Bourbon avec pour les moyens techniques Lucien Lefebvre. Alors la ministre des Comptes Publics Amélie de Montchalin compte bien contenir le déficit de la Sécu sous la barre des 20 milliards d'euros. Sur BFM TV, la ministre a expliqué que les économies prévues dans ce budget n'empêcheraient pas le financement du Ségur de la Santé, ce vaste plan de revalorisation salariale des soignants de l'hôpital public. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Stanislas.
Le Ségur de la Santé qui pèse lourd dans le déficit de la Sécurité sociale.
Pour rappel, le Ségur désigne ces négociations voulues par le gouvernement au moment de l'épidémie de Covid. L'objectif étant de remercier les soignants mais aussi de créer, si possible, un choc d'attractivité pour les maintenir à l'hôpital public et dans l'ensemble des structures de soins. Très égalitaire, le Ségur prévoyait une prime 183 euros versée d'abord aux agents des trois fonctions publiques, d'État, hospitalière et territoriale engagés dans les établissements de santé. Or, augmenter la masse salariale est tout sauf évident, car, explique Benjamin Ferras, haut fonctionnaire, enseignant à Sciences Po et spécialiste des comptes sociaux, car la masse salariale n'est pas fléchée dans le budget d'un hôpital.
Dans certaines activités, il va être financé sur une base budgétaire et le budget qui va lui être alloué va être calculé sur la base de la situation moyenne des établissements en France qui ne correspond pas à sa situation singulière, donc il peut être gagnant ou perdant. Et puis de l'autre côté, pour tout ce qui est tarifé à l'acte, dans la T2A, eh bien là aussi, ça va être une tarification à la moyenne. Et suivant le volume d'actes et qui fait ces actes, eh ben, il aura plus ou moins une prise en compte de ses spécificités. Donc, deux établissements peuvent être dans deux situations totalement différentes compte tenu des modalités de financement qui sont retenues.
Et c'est donc assez difficile de prévoir cette masse salariale. Le Ségur couvre également depuis 2024 et 2025 le secteur social et médico-social. Entendez les instituts, par exemple, pour personnes handicapées, les EHPAD, mais aussi les personnes fragiles, les centres d'hébergement pour SDF, les endroits où sont pris en charge les enfants en difficulté, etc., etc. Et toutes ces sommes n'ont pas été financées lorsqu'elles ont été votées. Le gouvernement comptait initialement sur une reprise de la croissance post-Covid. Elle n'a pas eu lieu. Les milliards manquants liés au Ségur correspondent environ à l'augmentation d'un point de CSG, mais les impôts, on le sait, sont restés stables. C'est l'une des constantes voulues par Emmanuel Macron.
Tara Schlegel, spécialiste santé à la rédaction de France Culture. Dans un contexte économique plus qu'incertain, la CGT a publié ce matin sa liste noire actualisée des plans de licenciement. La désindustrialisation de la France s'accélère, estime le syndicat, qui a recensé 107 000 emplois menacés ou supprimés depuis septembre 2023, dont 46 500 pour la seule industrie, et cela représente 483 plans de réduction d'effectifs pour la CGT. Ces chiffres prouvent l'échec de la politique de l'offre défendue par Emmanuel Macron depuis 2017. Les dizaines de milliards d'euros d'aide aux entreprises n'auraient pas permis de sauver des emplois. Au contraire, cette manne aurait surtout bénéficié aux actionnaires. La CGT qui souhaite donner les moyens aux organisation syndicale de sauver des usines, Camille Magnard.
Et la centrale dirigée par Sophie Binet a son idée sur la manière de favoriser des projets de reprise d'entreprise montés par les travailleurs et leurs organisations représentatives. Il faut, dit la secrétaire nationale, leur donner plus de pouvoir dans les instances décisionnelles.
Nous voulons pouvoir rentrer dans les tribunaux de commerce, nous voulons pouvoir faire appel des décisions des tribunaux de commerce, nous voulons avoir accès aux données stratégiques pour pouvoir évaluer les offres de reprise des entreprises ou en positionner. Nous voulons que les salariés puissent avoir un droit de veto sur les aides publiques. Bref, nous voulons enfin que notre voix compte.
Que la voix des syndicats et des travailleurs compte, là où l'État n'arrive pas à imposer des conditions sociales sur ses aides publiques aux entreprises, là où la Banque publique d'investissement, la BPI, est accusée par la CGT, je cite, de dérouler le tapis rouge à des fonds vautours, comme avec le fonds Europlasma, choisi il y a 6 mois pour reprendre les fonderies de Bretagne, 266 emplois et un carnet de commandes toujours vide, confirme le secrétaire général de la CGT Métallurgie Stéphane Flégeau, alors que le syndicat avait proposé un projet de reprise alternatif.
Étant donné qu'on est implanté chez John Deere, la CGT, on a été en capacité d'influer chez John Deere pour qu'ils amènent de la production à Fonderie de Bretagne. Donc c'est d'avoir des syndicats chez les donneurs d'ordre et les sous-traitants. C'est ça aussi qui nous permet d'intervenir à certains niveaux et de porter des projets qui sont très concrets, argumentés, étoffés économiquement ou industriellement.
Et il n'y a pas que la CGT qui alerte aujourd'hui. Le baromètre du journal Les Échos avec le cabinet Trendéo compte depuis la rentrée de septembre plus de 10 000 emplois industriels supprimés ou menacés.
Camille Magnard, merci pour ces explications. Les images sont terribles. Un petit garçon torse nu, recroquevillé sur une chaise, à qui on rase le crâne. Selon la ville de Paris, la scène filmée s'est déroulée en février dernier dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance dans le 13e arrondissement. L'enfant a 8 ans et ce sont des éducateurs qui lui rasent la tête pour le punir avant de se moquer de lui sur une boucle WhatsApp. L'affaire a été révélée ce matin par France Info. La ville de Paris dénonce des faits gravissimes. Elle saisit la justice pour des faits de maltraitance, Anne Fauquemberg.
Dans la première vidéo, une éducatrice se tient debout derrière l'enfant, une tondeuse à la main. Le petit garçon a la moitié du crâne rasé et un éducateur lui lance « on va t'appeler double face ». Sur la deuxième vidéo, le garçon a cette fois la tête entièrement rasée. Des vidéos dédiées donc à la boucle WhatsApp des éducateurs de ce foyer du 13e arrondissement de Paris. La mère de cet enfant ne découvrira les images qu'à la fin du mois de septembre, 7 mois après les faits qui datent de février 2025. Dans un premier temps, on lui dit que le coiffeur a raté la coupe du garçon, puis que son fils avait des poux. Il n'en est rien. Pour autant, elle ne dépose pas plainte, explique son avocat Axel Delaunay-Belleville au micro de France Info.
J'ai pas le sentiment que lorsqu'on dit à une maman que oui, évidemment, elle peut porter plainte, mais que par contre, attention, si elle dépose plainte, son enfant changera nécessairement de foyer et qu'on ne peut pas lui assurer qu'il restera dans un foyer parisien par manque de place. Elle a deux enfants qui sont placés. Ces deux enfants qui sont placés dans deux foyers différents, ce qui fait que lorsqu'elle doit les voir, elle doit faire le tour de Paris pour les récupérer. Et cette idée d'être éloignée de son plus jeune fils l'a conduit à préférer la solution que je lui ai proposée et sur laquelle nous sommes accordés tous les deux, à savoir de, elle, se rapprocher de l'ASE et moi, de mon côté, de me rapprocher du juge des enfants, forcé de constater plus de 2 mois après que ça n'a pas changé grand-chose.
La mère envisage aujourd'hui de porter plainte. L'affaire est choquante. Elle suscite depuis ce matin de multiples initiatives. Un député a saisi la procureure de la République pour délit de violence avec circonstances aggravantes contre cet enfant au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Quant à la mairie de Paris, elle a également saisi la justice et diligenté une enquête administrative entraînant déjà le renouvellement de l'équipe encadrante du foyer.
Anne Fauquemberg, merci pour ces précisions. Face à la dermatose bovine, le gouvernement exclut à ce stade la vaccination générale des troupeaux. Pour le ministère de l'Agriculture, la maladie animale est sous contrôle. La ministre Annie Genevard a réuni ce matin les acteurs de la filière. Il y a à ce jour 108 foyers de dermatose bovine en France, dans 7 départements. Et les solutions pour enrayer la propagation de la maladie divisent les syndicats agricoles, Catherine Pétillon.
À ce stade, le ministère de l'Agriculture choisit de poursuivre la stratégie sanitaire à l'œuvre depuis l'apparition de la maladie en juin dernier, à savoir l'abattage complet des troupeaux où la dermatose est présente, la restriction des déplacements d'animaux dans les zones réglementées, c'est-à-dire les zones de 50 km autour d'un foyer de la maladie, et la vaccination des bovins dans ces mêmes zones. Une stratégie qui a fait ses preuves, affirme le ministère de l'Agriculture, lequel se félicite de la levée de 3 zones réglementées. Il en reste aujourd'hui 2 dans les Pyrénées-Orientales et le Jura. Or, l'abattage total reste contesté, notamment par la coordination rurale et la confédération paysanne, méthode qu'il juge injuste, inefficace et traumatisante. Stéphane Gallet, porte-parole de la confédération paysanne.
On le conteste parce qu'il y a des études aussi qui montrent que à partir du moment où il y a un plan vaccinal large, il n'y a pas de bénéfice à l'abattage total. Et puis, par ailleurs, on trouve que ça sidère, que ça désespère les éleveurs, et que ça provoque aussi parfois des comportements un peu délétères de non-déclaration d'animaux aussi. C'est très traumatisant pour l'élevage dans son ensemble. On ne pourra pas subir en permanence des abattages totaux. Donc c'est pour ça que nous, on appelle de nos voeux à la vaccination pour protéger, anticiper le potentiel en résurgence de la maladie l'année prochaine.
Cette vaccination préventive est loin de faire l'unanimité en raison de son coût et surtout des implications commerciales. Car si la France vaccinait massivement, elle ne serait plus considérée comme un pays indemne de la maladie. Et cela bloquerait les exportations d'animaux. Les prochaines discussions sur le sujet ont été repoussées à 2026. En attendant, la Confédération paysanne a prévu de nouvelles mobilisations dès demain.
Les États-Unis appellent ce soir à une cessation immédiate des affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge. Les combats ont repris lundi tout au long de la frontière contestée entre les deux pays. Un accord de cessez-le-feu a pourtant été signé le 26 octobre dernier à Kuala Lumpur, sous l'égide de Donald Trump, le président américain, qui se targue de régler les conflits les uns après les autres et mis en échec en Asie du Sud-Est. On fait le point avec Dominique André.
Signé sous l'égide de Donald Trump fin octobre dernier, le plan de paix accepté par la Thaïlande et le Cambodge aura tenu à peine quelques semaines. Malgré la promesse d'accords commerciaux, la méthode du président américain a des limites qui se heurtent à la réalité. Pour les deux nations du sud-est asiatique, c'est dans l'histoire qu'il faut chercher les racines du conflit. En 1907, un traité sur le tracé de la frontière est signé entre la France, ex-puissance coloniale du Cambodge, et le royaume de Siam, soit la Thaïlande de l'époque. Mais un différend est demeuré sur quelques morceaux de territoire, ce qui explique les affrontements de cette semaine et les précédents, dont celui de juillet. La reprise des hostilités inquiète l'ONU, l'Union européenne, ainsi que les pays de la zone dont la Malaisie, pays voisin, et la Chine, principal partenaire commercial de la Thaïlande, avec un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse. Les États-Unis appellent à une cessation immédiate des affrontements et au retour au cessez-le-feu du 26 octobre, qui est l'un des 8 accords de paix que Donald Trump a revendiqué haut et fort. Mais plus qu'un accord rapide, sérieusement menacé par la reprise de ses combats, c'est d'une paix durable dont ont besoin le Cambodge et la Thaïlande.
Dominique André de la rédaction internationale de Radio France. En Allemagne, la Russie est au cœur d'un procès fleuve qui a débuté ce matin à Francfort. 3 hommes sont jugés pour avoir espionné un ancien soldat de l'armée ukrainienne pour le compte des services secrets russes. Les audiences sont programmées jusqu'au printemps prochain. On retrouve à Berlin Sébastien Bayer, correspondant de France Culture en Allemagne. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Sébastien, selon l'acte d'accusation, ce mini-commando prévoyait d'éliminer sa cible.
Oui, c'est un Arménien qui était à la tête du groupe et c'est lui qui s'est chargé de recruter ses deux complices, un Russe et un Ukrainien. Le commanditaire en Russie n'a pas été encore formellement identifié, mais selon l'accusation, les 3 hommes planifiaient effectivement l'assassinat de l'ex-militaire, une vengeance décidée par Moscou. La victime est un ancien membre des services secrets ukrainiens, mutilé de guerre. La Russie lui reproche d'avoir exécuté plusieurs soldats russes, des soldats capturés par les troupes ukrainiennes. Une vidéo tournée dans les premiers jours du conflit en mars 2022 confirmerait la participation de cet homme de 43 ans à ce que Moscou a dénoncé et qualifié de crime de guerre. Dès lors, la tête de l'ex-militaire est mise à prix. Pour échapper aux menaces, il se réfugie fin 2023 en Allemagne, mais il est repéré par le trio jugé aujourd'hui, trio qui tente de l'attirer dans un guet-apens dans un café de Francfort. L'un des membres du groupe se fait passer pour son nouveau contact au sein des services secrets ukrainiens, mais l'ex-soldat se méfie. Il alerte la police qui boucle le quartier et interpelle le commando. Depuis, les 3 hommes sont en détention. Ils rejettent les accusations et nient tout lien avec la Russie. Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Allemagne, premier soutien militaire et financier de Kiev en Europe, est la cible de campagnes de désinformation, sabotage, intimidation et espionnage. Une guerre hybride que la chancellerie attribue à la Russie.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin. En Ukraine, près de la moitié des habitants de Kiev sont privés d'électricité ce soir, conséquence d'une nouvelle attaque russe sur les infrastructures énergétiques du pays. Des attaques qui obligent l'opérateur Ukrenergo à restreindre la fourniture d'électricité. Et pendant ce temps-là, à Washington, Donald Trump continue à critiquer Volodymyr Zelensky. Le président américain estime que son homologue ukrainien devrait organiser de nouvelles élections. Il accuse même Zelensky d'utiliser la guerre pour éviter un nouveau scrutin présidentiel. L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado sera-t-elle à Oslo demain pour recevoir en personne son prix Nobel de la paix? Le doute s'installe ce soir après l'annulation de sa conférence de presse prévue aujourd'hui dans la capitale norvégienne. À 58 ans, Maria Corina Machado vit dans la clandestinité au Venezuela depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro. Sa dernière apparition publique remonte au 9 janvier dernier à Caracas. Caracas où l'on retrouve notre correspondante Alice Campagnol.
Le suspense est à son comble, tant au Venezuela qu'en Norvège. Va-t-on voir Maria Corina Machado à Oslo? Elle et son équipe avaient annoncé sa présence dans la capitale norvégienne pour recevoir sa récompense en personne, sans pour autant livrer de détails sur son départ du Venezuela. Mais dans un pays militarisé, l'organisation d'une telle extraction est délicate. L'opposante est l'ennemi public numéro 1 au Venezuela. Poursuivie par la justice, elle vit cachée depuis l'élection présidentielle de juillet 2024, recluse à l'ambassade des États-Unis selon toute vraisemblance, bien que cela n'ait jamais été officiellement reconnu. Ils sont nombreux, les opposants politiques, les exilés, les journalistes et ses proches, à l'attendre à Oslo. Le président du comité du prix Nobel a confirmé qu'elle devrait recevoir son prix demain lors de la cérémonie officielle. La question qui se posera ensuite, Comment rentrera-t-elle dans son pays, elle qui a toujours revendiqué le fait de rester au Venezuela pour continuer à combattre le gouvernement de Nicolas Maduro de l'intérieur.
Alice Campagnol, correspondante de France Culture au Venezuela. C'est l'Élysée qui l'affirme aujourd'hui. La France a apporté un appui en termes de surveillance et d'observation et de soutien logistique aux forces armées du Bénin à la demande des autorités de Cotonou. Et cela face à la tentative de putsch qui a été déjouée le week-end dernier au Bénin. Le président français Emmanuel Macron a mené un effort de coordination, a expliqué l'un des conseillers du chef de l'État. Un mot du temps, demain, la pluie dominera sur de nombreuses régions, de la Nouvelle-Aquitaine à la frontière belge. Ailleurs, un ciel variable et même des éclaircies. Les températures en légère baisse restent bien trop douces pour un mois de décembre, de 5 à 10 degrés pour les minimales. L'après-midi, il fera entre 10 et 15 degrés jusqu'à 18 près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alix Forgeot à la technique Jordan Fuentes.